إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. On continue donc aujourd'hui l'étude de cette épître, ce que tout musulman et musulmane doivent obligatoirement savoir. Nous allons voir, incha'Allah ta'ala, dans l'assise d'aujourd'hui, les conditions de la ilaha illallah, la parole du tawhid, qui signifie « Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala ». Donc le shaykh rahimahullah ta'ala, il a ici mentionné les sept conditions de la ilaha illallah d'une parole de l'éminent savant, le shaykh Abdurrahman ibn Hassan al-Shaykh, c'est-à-dire le petit-fils de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et il a mentionné ces conditions dans son livre Fathul Majid, qui est le commentaire de Kitab al-Tawhid. Il se peut que certaines personnes disent, mais d'où viennent ces sept conditions? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont textuellement mentionné ces sept conditions de la ilaha illallah? La réponse est que ces sept conditions sont tirées de l'étude et de l'analyse des textes du Coran et de la Sunna, comme on va le voir à travers les différentes preuves qu'il a mentionnées. C'est-à-dire que de la même manière que les savants sont unanimes quant au fait que la prière a des conditions, des piliers et des obligations, comme ils l'ont mentionné dans les livres de jurisprudence, et qu'ils ont puisé cela de l'étude et de l'analyse des textes du Coran et de la Sunna, alors il en est de même pour ce pilier immense qui est le plus important des piliers de l'islam et qui est cette parole par laquelle la personne quitte l'obscurité de la mécréance pour la lumière de l'islam. La parole du tawhid, la ilaha illallah, a elle aussi des conditions qui sont puisées des textes du livre et de la sunna. Une fois que cela est su, il est important pour nous de savoir que cette parole, la ilaha illallah, elle ne peut profiter à celui qui la prononce si ce n'est en réunissant l'ensemble de ses conditions. C'est-à-dire que la personne doit concrétiser ses conditions lorsqu'elle prononce cette parole et mettre en pratique ce qu'elle implique. Il a donc mentionné tout d'abord ces sept conditions, puis ensuite, il va nous mentionner les preuves du Coran et de la Sunna. Il dit, rahimahullah, al-awwal, al-ilmu bima'naha, nafyan wa izbata. La première condition, c'est la science, al-ilm, c'est-à-dire la connaissance de son sens, en termes d'affirmation et d'affirmation. Ceci est donc la première des sept conditions de la ilaha illallah. Il est donc impératif pour le musulman de savoir et de connaître quel est le sens de la ilaha illallah. Et son sens, comme on l'a dit, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Il n'y a aucun Dieu, aucune divinité qui ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les dieux et toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont de faux dieux et de fausses divinités. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Ceci est le sens donc de la parole la ilaha illallah. Ce n'est pas comme le pensent certaines personnes, par ignorance, qui disent que le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Bien que ceci soit impliqué par le sens de cette parole. Cependant, cette parole ne concerne pas la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on va le voir par la suite, à travers l'épreuve, si la ilaha illallah voulait dire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, alors les polythéistes de Quraysh auraient prononcé cette parole et ne se seraient pas abstenus de sa prononciation, car ils avaient la ferme conviction qu'il n'y a pas d'autre créateur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, ils ont refusé de prononcer cette parole et se sont enorgueillis car ils savaient qu'elle voulait dire et qu'elle impliquait le rejet de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette parole, il est important de savoir aussi qu'elle a deux piliers, qui sont le rejet et l'affirmation. C'est-à-dire que lorsque tu dis la ilah, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de divinité, tu rejettes par cette parole l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite tu dis illallah, c'est-à-dire que tu affirmes que toutes les adorations, ce sont un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc impératif de réunir entre ces deux piliers, le rejet et l'affirmation. Le rejet de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation qu'Allah seul est en droit d'être adoré. Ceci est donc la première condition de la ilaha illallah, que tu connaisses son sens, que tu comprennes le sens de cette parole et que cela ne soit pas des simples termes que tu prononces avec ta langue sans savoir ce qu'ils impliquent. La deuxième condition, il dit, rahimahullah, الثاني, اليقين, وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. La deuxième condition, c'est la certitude, qui est la perfection du savoir, qui s'oppose au doute et à l'hésitation. Ceci est donc la deuxième condition de la ilaha illallah, la certitude. Tu as la science complète du sens de cette parole, à tel point que tu n'as plus aucun doute et plus aucune hésitation à ce sujet. Donc celui qui dit la ilaha illallah, il est impératif qu'il ait la certitude de la véracité du sens de cette parole et qu'il n'ait aucun doute ni aucune hésitation. Car la foi, elle ne peut être valide et authentique si ce n'est accompagné de la certitude. Quant à celui qui a du doute ou de l'hésitation, alors celui-ci est semblable aux hypocrites. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc là, pour l'instant, on voit simplement le sens général de ces conditions et tout ceci va être plus développé lorsque l'on va lire les preuves du Coran et de la Sunna que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné à ce sujet. Il dit ensuite, الثالث الإخلاص المنافي للشرك. La troisième, c'est-à-dire la troisième condition de la ilaha illallah, c'est l'ikhlas, qui s'oppose au shirk, au polythéisme. Donc l'ikhlas, on a vu dans des cours précédents que cela désignait, dans la langue arabe, la purification. Et dans la religion, cela désigne le fait d'aimer Allah, de rechercher son noble visage et de purifier ton adoration de toute forme de polythéisme. C'est-à-dire que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'adores qu'Allah et tu rejettes l'adoration de tout autre que lui, car il est le seul à mériter l'adoration subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui prononce la ilaha illallah, mais qui n'est pas sincère, qui n'a pas l'ikhlas, qui ne voue pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui fait du polythéisme, qui invoque autre qu'Allah, qui se prosterne pour autre qu'Allah, ou autre parmi les formes de polythéisme, alors celui-ci, cette parole, elle ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, الرابع الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. Il dit la quatrième condition, c'est la véracité, الصدق, qui s'oppose au mensonge et qui empêche ou protège de l'hypocrisie. Ceci est donc la quatrième condition de la ilaha illallah, la véracité. Que la personne soit véridique lorsqu'elle prononce cette parole. Et ceci s'oppose au mensonge. Donc, lorsque tu dis la ilaha illallah, tu dois être véridique en cela. Tu dois prononcer cette parole avec véracité. Ce que tu prononces avec ta langue doit traduire ce qui se trouve dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une concordance et un accord entre ce que tu prononces avec ta langue et ce qui se trouve dans ton cœur. Quant à celui qui la prononce avec sa langue, mais la rejette dans son cœur, la dément, alors celui-ci est un hypocrite, wal'iyadu billah. Car l'hypocrisie, al-nifaq, cela désigne le fait d'extérioriser le bien, c'est-à-dire de montrer en apparence le bien, mais de cacher au fond de soi le mal ou la mécréance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'hypocrisie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé les hypocrites dans son noble livre, dans de nombreux versets. Et il a même révélé une sourate entière à leur sujet, sourate Al-Munafiqun, ce qui nous démontre le danger de cette catégorie de personnes, qui sont les hypocrites, ceux qui montrent en apparence l'islam, mais qui cachent au fond d'eux-mêmes la mécréance. Et on développera plus ce sujet, Inch'Allah ta'ala, lorsque nous arriverons au chapitre qui traite de l'hypocrisie et de cette catégorie.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la véracité, c'est une condition impérative de la ilaha illallah. Si la personne n'est pas véridique, que lorsqu'elle prononce cette parole avec sa langue, cela ne correspond pas à ce qu'il y a dans son cœur, et qu'elle dément ou qu'elle ne croit pas en cette parole dans son cœur, alors la prononciation de la ilaha illallah ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, Al-Khamis, Al-Mahabbatu lihadihi al-Kalima, wa lima dallat alayhi, wa sururu bidharik. Il dit la cinquième condition, c'est le fait d'aimer cette parole et ce qu'elle prouve et de se réjouir de cela. Donc la cinquième condition de la ilaha illallah, c'est l'amour, al-mahabba, qui s'oppose à la haine. Et aimer ce que prouve cette parole est une chose impérative pour le croyant, car l'amour est une chose très importante dans notre religion. En effet, l'adoration, toute adoration, est basée sur trois fondements immenses, qui sont la peur, l'espoir et l'amour. Donc si l'amour est absent, c'est un des fondements de l'adoration qui est absent. Il est donc impératif pour le croyant d'aimer la parole du tawhid, d'aimer la parole la ilaha illallah et d'aimer ce que cette parole implique en se soumettant aux ordres d'Allah et en délaissant ses interdits. De même que la personne doit se réjouir de cela. Elle doit faire cela d'une poitrine épanouie en se réjouissant de se soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits. Il dit ensuite, rahimahullah, As-sadis al-inqiyadu bihukuqiha wa hiya al-a'malu al-wajiba ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. La sixième, c'est-à-dire la sixième condition, c'est la soumission à ce qu'elle implique comme devoir, c'est-à-dire les œuvres obligatoires, par sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et en recherchant sa satisfaction. En effet, si tu médites sur la situation de certaines personnes, tu en verras parmi eux qui prétendent connaître le sens de la ilaha illallah, vouer un culte exclusif à Allah, être sincère, être véridique et avoir la certitude de cela. Mais lorsqu'un ordre leur est enjoint ou qu'un interdit leur est présenté, ils ne se soumettent pas à cela. Ils n'accomplissent pas les ordres d'Allah et ne délaissent pas les interdits. Et ceci démontre la fausseté de leurs prétentions. Car s'ils étaient réellement véridiques, qu'ils avaient réellement la certitude, qu'ils avaient un réel amour pour cette parole, alors ils se seraient soumis à ce qu'elle implique comme devoir en apparence et au fond de leur personne. Et ce, par sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et en recherchant sa satisfaction, et en craignant sa colère et son châtiment. Et tu peux méditer à ce sujet sur le récit d'Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a su, avec certitude, que ce avec quoi est venu son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la vérité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, il ne s'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas délaissé le polythéisme et la religion de ses ancêtres. Ainsi, le fait d'avoir su et d'avoir eu la certitude en la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne lui a en rien été profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, al-sabi', la septième condition, al-qaboul al-munafi lil-radd, l'acceptation qui s'oppose au rejet. C'est-à-dire que la personne accepte tout ce que cette parole implique. Car celui qui ne l'accepte pas et la rejette, ou s'enorgueillit, alors celui-ci est un mécréant. De la même manière que l'ont rejeté les polythéistes de Quraysh. Par orgueil, ils n'ont pas accepté ce qu'implique cette parole. Donc l'acceptation de ce qu'implique la parole de la ilaha illallah, c'est une de ses conditions. Et celui qui prononce cette parole sans accepter ce qu'elle implique, en rejetant une partie de ce qu'elle implique, alors celui-ci, cette parole, ne lui en rien profitable. Ceci sont donc les sept conditions de la ilaha illallah. Al-ilm, le savoir, al-yaqin, la certitude, al-ikhlas, le fait de vouer un culte exclusif à Allah, ou la sincérité, al-sidq, la véracité, al-mahabba, l'amour, al-inqiyad, la soumission, et al-qaboul, qui est l'acceptation. Et il est impératif pour celui qui prononce cette parole de réunir ces sept conditions. Cependant, je tiens à souligner une chose importante. Ce qui est visé, ce n'est pas simplement de mémoriser ces conditions, mais ce qui est visé, c'est la compréhension et la mise en pratique de ces conditions. En effet, combien de personnes parmi les musulmans, parmi les gens du commun, ont compris ces conditions, s'y soumettent et les mettent en pratique? Mais si tu lui demandes de les énumérer, peut-être qu'il ne saura pas les énumérer. Mais dans ses œuvres et sa mise en pratique, il a concrétisé ces 7 conditions. Et inversement, tu trouveras certains qui ont mémorisé ces termes, mémorisé ces conditions, mais qui ne les mettent pas en pratique. Ou alors, qui mettent en pratique des choses qui viennent les annuler alors qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Donc il est important pour nous, mes frères, de comprendre que l'objectif de l'étude de ces conditions, ce n'est pas le simple fait de mémoriser ces conditions, bien que ceci fait partie de la science qu'il convient à toute personne aspirant à l'étude de la science de mémoriser. Mais ceci n'est pas la finalité. La finalité, ce que tu dois rechercher, ce à quoi tu dois aspirer, c'est de comprendre ces conditions et de les mettre en pratique comme il se doit. C'est cela, la finalité qui est recherchée. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Adillatu hadihi shurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. » Les preuves de ces conditions tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il va donc maintenant nous mentionner les preuves de ces conditions, qui, comme on l'a dit, sont tirées des textes du Coran et de la Sunna. Et ce, afin que tu sois sur une science certaine et sur une preuve évidente au sujet de cette question importante qui fait partie de la base de notre religion. Il a donc commencé par la première condition qui est l'ilm. Et il a dit, rahimahullah, « Dalil al-ilmi, qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. » Donc la preuve concernant l'ilm, concernant le savoir, qui est la première condition de la ilaha illallah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc que nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah. Donc ceci est une preuve du livre d'Allah concernant cette première condition. Ici Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'alam, sache. Et ceci est un verbe à l'impératif. Il s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté. Sache, c'est-à-dire, prépare-toi à comprendre la parole très importante qui va t'être adressée. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans aucun associé. Donc ce verset, il nous prouve que la science, le savoir, l'ilm, il doit précéder la parole. Car Allah subhanahu wa ta'ala a commencé ici par ordonner de savoir. Et ce, car les paroles et les œuvres, ils ne peuvent être valides sans le savoir, sans la science. C'est une condition qui va venir corriger ton intention et corriger ton œuvre. Et la science, elle précède la parole et les œuvres. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a intitulé un chapitre dans son recueil de hadiths authentiques, « Bab al-ilm qabl al-qawli wal-amal ». Chapitre « La science passe avant la parole et les œuvres ». Et qu'est-ce qu'il a mentionné comme preuve? Il a mentionné ce verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, vient de citer ici. Il a dit « Wa dalil qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. » Sache donc que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Ensuite, l'auteur ici, rahimahullah, il a mentionné un second verset pour nous prouver que l'ilm, le savoir, c'est une condition de la ilaha illallah. Et ce verset est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Illa man shahida bil haqq » Sauf ceux qui ont témoigné de la vérité. Quelle est cette vérité dont ils ont témoigné? Il nous dit « Ay bila ilaha illallah » C'est-à-dire que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Ceci est la vérité dont ils ont témoigné. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? « Wa hum ya'lamoun » Alors qu'ils savent. Alors qu'ils en ont le savoir. Ils connaissent cette parole. Et il nous dit « Rahimahullah » Ay bi qulubihim ma nataqu bihi bi alsinatihim. C'est-à-dire qu'ils savent dans leur cœur ce qu'ils ont prononcé avec leur langue. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a émis comme condition de ce témoignage ou de cette attestation de la vérité, quoi? La connaissance de ce dont ils ont témoigné. Car il est impossible pour une personne de faire un témoignage, de prononcer une attestation, si ce n'est en ayant connaissance de ces témoignages et de cette attestation. Alors que dire du plus grand des témoignages et de la plus grande des attestations, qui est celle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. L'attestation du tawhid. L'attestation que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette première condition. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Il dit ensuite et de la sunna, c'est-à-dire la preuve du ilm, la preuve concernant cette première condition qui est le savoir, tirée de la sunna, c'est-à-dire la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui désigne ici l'ensemble de ses paroles, de ses actes et de ses approbations. Il dit donc la preuve de la sunna, c'est le hadith confirmé dans l'authentique, al-sahih. Donc lorsque les savants disent al-sahih, ils visent généralement al-Bukhari et Muslim ou l'un d'entre eux, car leurs livres sont les livres les plus authentiques dans la science du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de livre plus authentique après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah, puis l'authentique de l'imam Muslim. Mais il se peut aussi que parfois certains auteurs disent « wa fi sahih » et dans l'authentique, et ils visent « et dans les hadiths authentiques », c'est-à-dire que le hadith est authentique pour lui. Or ici, il a visé l'authentique de l'imam Muslim, car ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. D'après Uthman, c'est-à-dire Uthman ibn Affan, le troisième des califes bien guidés, celui qui a été surnommé Dhun Nurayn, et ce car il a été marié à deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dhun Nurayn, cela signifie donc celui qui possède les deux lumières. Et ce qui est visé par les deux lumières, ce sont donc deux des filles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce hadith, Uthman radiyallahu ta'ala anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque meurt alors qu'il sait que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah, il entrera au paradis. » Donc ce qui est visé dans ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « alors qu'il sait ». Ceci nous prouve donc que le savoir est une des conditions de la ilaha illallah. Cependant ici, j'attire votre attention sur le fait que le savoir seul n'est pas une finalité comme vous le savez. Et comme on l'a répété déjà dans de nombreux cours lors de notre étude des 40 hadiths d'An-Nawawi. Mais la finalité, qu'est-ce que c'est? La finalité, c'est la mise en pratique de ce que tu sais. Ce n'est pas simplement que tu saches que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Mais il faut que tu mettes en pratique cette parole, que tu te désavoues du shirk, que tu le délaisses, que tu t'en écartes et que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui a la science, mais qu'il ne la met pas en pratique, alors cette science, ce sera une preuve contre lui au jour de la résurrection. Comme on l'a vu dans le hadith, Al-Qur'an, hujjatun laka wa alayk. Le Qur'an, c'est une preuve pour ou contre toi? Une preuve pour toi, si tu le mets en pratique. Une preuve contre toi, si tu ne le mets pas en pratique. Ceci sont donc les preuves du Qur'an et de la sunna de cette première condition qui est la science, le savoir, al-ilm. Il dit ensuite, rahimahullah, wa dalil al-yaqin, et la preuve concernant la certitude, qui est donc la deuxième condition. Qawluhu ta'ala, innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus sadiqun. Les croyants, c'est-à-dire les vrais croyants, sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, puis qui ne doutent point, c'est-à-dire qu'ils ont la certitude, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah, dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Il dit donc, rahimahullah, فَاشْتَرَطَ فِي صِدْقِ إِمَانِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَوْنَهُمْ لَمْ يَرْتَابُوا أي لَمْ يَشُكُّوا فَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَهُوَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. Il dit, rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a donc mis comme condition de la véracité de la foi en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam le fait de ne pas douter, c'est-à-dire de n'avoir aucune hésitation. Quant à celui qui doute et qui hésite, alors il fait partie des hypocrites. Donc la preuve que le yaqin, la certitude, est une des conditions de la ilaha illallah, c'est ce verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innamal mu'minun » Les croyants, c'est-à-dire les vrais croyants, ce sont seulement ceux qui croient à Allah et son messager, puis qui ne doutent point. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de doute à ces sujets, mais qui sont fermes sur leur foi et qui ont la certitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Ulaika hum sadiqun » Ceux-là sont les véridiques, c'est-à-dire les véridiques dans leurs paroles, non pas comme ceux qui prétendent avoir la foi, mais qui en réalité sont au doute au sujet de la religion. Donc ce qui est visé à travers ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme condition de la véracité de la foi en Allah et en ce messager sallallahu alayhi wa sallam, le fait de ne pas douter, c'est-à-dire qu'il est impératif d'avoir la certitude dans notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quant à celui qui doute, alors il fait partie des hypocrites. En effet, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans son livre, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala au verset 45 de surat At-Tawba, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Ne te demande la permission, c'est-à-dire la permission de ne pas aller au combat, que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes. Dont les cœurs sont emplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Telle est la situation des hypocrites. Leurs cœurs sont remplis de doutes, wal'iyadu billah. Ils sont sans cesse dans l'hésitation et l'incertitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits également en disant, au verset 143 de surat An-Nisa, « Mudhabdhabina bayna dhalik, la ilaha hula, wa la ilaha hula. » Ils sont indécis entre ceux-là, c'est-à-dire entre les croyants et entre les mécréants, entre la foi et la mécréance, n'appartenant ni à ceux-là, ni à ceux-là, ni aux uns, ni aux autres. Ils ne sont pas avec les croyants, car au fond d'eux-mêmes, ils rejettent la foi, ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne croient pas en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne sont pas avec les mécréants, pourquoi? Car en apparence, ils se montrent comme étant des croyants, des musulmans. Donc ils ne sont ni avec les uns, ni avec les autres, mais ils sont indécis entre ceux-là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'hypocrisie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous les a décrits dans de nombreux versets dans son livre. Et il a décrit les hypocrites comme ayant quoi? Une maladie dans le cœur. Et cette maladie, comme on va le voir par la suite, c'est le doute et l'hypocrisie. Le doute et l'incertitude. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa min sunnah, et de la sunnah, c'est-à-dire la preuve de la sunnah, concernant al-yaqin, concernant la certitude, al-hadith al-thabit fi al-sahih an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu. C'est le hadith confirmé dans l'authentique, c'est-à-dire dans l'authentique de Muslim également. D'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Wa anni rasulullah, et que je suis le messager d'Allah. La yalqa Allah bihima 'abdun ghayru shakkin fihima illa dakhala al-jannah. Aucun serviteur ne rencontrera Allah avec ces deux paroles en ayant aucun doute à leur sujet sans entrer au paradis. C'est-à-dire qu'il ne doute pas au sujet de cette parole. Ceci nous prouve donc que la certitude est une des conditions de la ilaha illallah. Et dans une autre version, il nous dit wa fi riwaya la yalqa Allah bihima 'abdun ghayru shakkin fihima fayuhjabu 'anil jannah. Il dit et il n'est pas possible qu'un serviteur, rencontre Allah avec ces deux paroles en n'ayant aucun doute à leur sujet, puis qu'il n'entre pas au paradis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prononce ces deux paroles, qu'il n'a aucun doute au sujet de ces paroles, qu'il a la certitude, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne l'empêchera pas d'entrer au paradis. On voit donc, à travers les deux versions de ce hadith, que le fait de ne pas douter au sujet de ces paroles et d'avoir la certitude est bel et bien une condition de la ilaha illallah. Et c'est une cause pour rentrer au paradis, le fait d'avoir la certitude, de ne pas hésiter à ce sujet. Car le doute, mes frères, c'est une cause de la mécréance, comme on va le voir lorsqu'on verra les différentes sortes de mécréances lors du chapitre lié à ce sujet. Ensuite, il dit, rahimahullah, il nous mentionne un autre hadith prouvant cette condition.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا من حديث طويل من لقيت من وراه هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Et d'après Abi Huraira رضي الله تعالى عنه également, dans un long hadith, celui que tu rencontres, c'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui que tu rencontres derrière ce mur, et qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, et dont le cœur en a la certitude, c'est-à-dire qu'il a la certitude dans son cœur à ce sujet, alors annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Allahu Akbar.
Celui qui a la certitude, dont le cœur est certain que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est une cause pour qu'il entre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, annonce-lui alors la bonne nouvelle du paradis. Tout ceci, mes frères, nous démontre que la certitude est une condition de la ilaha illallah et que celui qui a un doute à ce sujet n'a pas concrétisé cette parole et ne fait pas partie du nombre des musulmans. Il dit ensuite, concernant la troisième condition, وَدَلِيلُ الْإِخْلَاسِ et la preuve concernant l'ikhlas, قَوْلُهُ تَعَالَى c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ n'est-ce pas Allah qu'appartient la religion pure, c'est-à-dire la religion du culte exclusif qui est voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte parmi les œuvres que ce qui lui est voué exclusivement, que celui qui œuvre exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est ce qu'implique ton attestation lorsque tu dis « Ash'hadu an la ilaha illallah ». J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Al-ikhlas, le culte exclusif, c'est une condition impérative de l'islam et de ton attestation que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui adore Allah et qui adore en parallèle autre que lui subhanahu wa ta'ala, en sacrifiant une poule ou un mouton pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les djinns, pour les sorciers, pour les tombes, ou alors elle se prosterne pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou autre parmi les formes de shirk, parmi les formes de polythéisme, alors celui-ci n'est pas du nombre des musulmans. Car al-ikhlas, le culte exclusif, c'est une condition impérative de la ilaha illallah. Et il a mentionné une deuxième preuve à ce sujet, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah. Adorer Allah seulement? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a précisé, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ en lui vouant un culte exclusif. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas seulement ordonné de l'adorer, mais il nous a ordonné de l'adorer lui exclusivement en dehors de tout autre que lui. Donc l'ikhlas, c'est une condition de la ilaha illallah. Et si l'ikhlas n'est pas présent, alors l'attestation que la ilaha illallah, elle n'est pas valide. Il est impératif que la personne voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a mentionné ensuite quelques hadiths de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam démontrant cela. Il a dit « wa min as-sunna » et de la sunna, parmi les preuves de la sunna au sujet de l'ikhlas, quant au fait que l'ikhlas est une condition de la ilaha illallah. « Al-hadithu thabit fi sahih » le hadith confirmé dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique de l'imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. « An Abi Hurayra » radiyallahu ta'ala anhu. D'après Abu Huraira, le noble compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a mémorisé le plus de hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Hafidhul Ummah, le grand mémorisateur de la communauté. Il dit radiyallahu ta'ala anhu, Ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, As'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi ou min nafsihi. Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aura la joie de bénéficier de mon intercession
C'est celui qui dit la ilaha illallah avec sincérité du fond de son cœur ou du fond de lui-même. Et ceci est une hésitation de celui qui rapporte le hadith, du fond de son cœur ou du fond de lui-même. Quoi qu'il en soit, on voit à travers ce hadith que l'ikhlas, le fait d'être sincère, c'est une condition de la ilaha illallah. Et c'est une condition pour obtenir l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui ne voue pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui donne des associés, premièrement, il n'aura pas concrétisé la parole du tawhid, la ilaha illallah, et deuxièmement, il n'obtiendra pas l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Pourquoi? Car c'est un polythéiste. S'il ne voue pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas muwahhid, il n'est pas monothéiste, il n'est pas musulman, il n'est pas musulman. Il ne pourra donc pas profiter de l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car l'intercession, c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde exclusivement à ceux dont il agrée les œuvres parmi ses serviteurs monothéistes. Et les polythéistes ne bénéficieront d'aucune intercession. Et ce sujet, le sujet de l'intercession, est un sujet que l'on a développé lors des cours sur les quatre règles de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Lors de la deuxième règle, l'auteur, rahimahullah, a détaillé le sujet de l'intercession. Il a exposé ses différentes catégories et vous pourrez revenir au cours à ce sujet qui sont présents sur le site annasiha.com, l'explication ou l'étude du livre « Les quatre règles » de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Wa fi s-sahih, an Ibn ibn Malik, رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. Et dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique del Bukhari et Muslim, ce hadith il est rapporté par al Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. D'après Ibn ibn Malik al-Khazraji, un compagnon bien connu qui a participé à la bataille de Badr et qui est mort durant le califat de Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhuma. Il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a certes interdit au feu », c'est-à-dire que le feu ne pourra pas toucher la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous décrire. « Allah a interdit au feu celui qui dit « La ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah » يَبْتَغِ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ en recherchant par cela le visage d'Allah عَزَّ وَجَلْ. Ceci est donc une deuxième preuve tirée de la sunna concernant l'ikhlas. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici يَبْتَغِ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ recherchant à travers cela le visage d'Allah, c'est-à-dire qu'il recherche à travers cela seulement le visage d'Allah en dehors de tout autre que lui. Et ceci est une preuve de l'ikhlas, que le culte doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc impératif pour la personne de mettre en pratique ce qu'implique cette parole, ce qu'implique la parole La ilaha illallah, en recherchant exclusivement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et en rejetant toute forme de polythéisme. L'essentiel qu'il faut retenir de cela, c'est que l'entrée au paradis et le salut du feu de l'enfer dépend de la prononciation et la mise en pratique de cette parole. La ilaha illallah avec l'ensemble de ses conditions. Et parmi ces conditions, l'ikhlas, le culte exclusif qui doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mentionné un troisième hadith à ce sujet. Il a dit, rahimahullah, « Walin nasa'i fil yawmi wal layla » Et nasa'i a rapporté dans son livre « Al yawmi wal layla » « Min hadithi rajulayn min as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum » D'après un hadith rapporté par deux hommes parmi les compagnons. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Man qala la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir, mukhlisan biha qalbuh, yazduqu biha lisanuh, illa fataqallahu laha s-sama fatqa, hatta yanzura ila qailiha min ahli al-ard, wa huqqa li'abdin, nadara allahu ilayhi, an yu'tiyahu su'alahu. » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Nul ne dit, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. » Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, seul, sans associé.
Médite sur cette parole. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Ensuite, tu viens appuyer cela en disant Wahdahu, seul. Tu viens confirmer le sens de sauf Allah, c'est-à-dire seul Allah mérite l'adoration. La sharikala, sans associé. Tu viens appuyer le sens de la ilaha. Nul n'est en droit d'être adoré sans associé. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré seul, sans associé. Lahul mulk, à lui la royauté. Wa lahul hamd, et à lui la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de toute chose. Il est omnipotent. Donc nul ne prononce cette parole mukhlisan biha qalbu, sincèrement de son cœur, véridiquement de sa langue, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ouvre le ciel à cette parole. Il ouvre le ciel pour cette parole afin de regarder qui la prononce parmi les gens de la terre. Et un serviteur qu'Allah regarde, et un serviteur qu'Allah a regardé, est en droit de voir sa demande exaucée. Allahu Akbar. Celui qui prononce cette parole avec sincérité et véracité, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre le ciel pour cette parole. Il ouvre les portes du ciel afin de regarder ce serviteur. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qu'Allah a regardé, il n'y a pas de doute qu'il est en droit de voir sa demande exaucée. C'est-à-dire que s'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'exaucera. Ce qui est visé dans la mention de ce hadith ici, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mukhlisan biha qalbu, sincèrement de son cœur, avec ikhlas. C'est-à-dire qu'il prononce cette parole avec ikhlas, en vouant un culte exclusif Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous indique donc, mes frères, qu'il est impératif pour celui qui prononce cette parole que ce qu'il y a dans son cœur soit en concordance avec ce que prononce sa langue et qu'il voue un culte exclusif Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, « Wadalil al-sidqi » est la preuve de la véracité. C'est-à-dire que la véracité est une des conditions de la ilaha illallah. Qawluhu ta'ala, alif lam mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? Wa laqad fatanna alladhina min qabrihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Nous avons certes éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah sait qui sont les véridiques et Allah sait qui sont les menteurs. Donc ce verset, il nous prouve quoi? Il nous prouve que la véracité, c'est une des sept conditions de la ilaha illallah. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il est inévitable pour le croyant d'être mis à l'épreuve et d'être testé afin de voir s'il est véridique dans sa foi. Quiconque prétend la foi, il sera forcément mis à l'épreuve et testé afin de démontrer la véracité de sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe donc ici en réalité qu'il ne suffit pas de prétendre la foi. Il dit selon le sens rapproché, est-ce que les gens pensent que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? Qu'il suffit de dire nous croyons, nous avons la foi, puis que la personne ensuite n'est pas éprouvée. Non, il est inévitable que la personne elle soit éprouvée afin de voir la véracité de sa foi. Car celui qui est véridique dans sa prétention et qui a réellement la foi, lorsqu'il sera mis à l'épreuve, lorsqu'il sera touché par les troubles, al-fitan, il sera ferme, telle une montagne, car il est véridique dans sa foi. Ce n'est pas un menteur. Alors que celui qui est menteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout délaisser. Il va revenir en arrière. À la moindre fitna, à la moindre tentation, au plus petit des troubles qui va survenir et par lequel il va être touché, tu vas le voir délaisser la vérité, wal-iyadu billah. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Car les fitanes, mes frères, les troubles, elles dévoilent les menteurs. Elles nous montrent qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. Qui sont les croyants et qui sont les hypocrites. Et ce, car le véridique, celui qui est véridique dans sa foi, il va rester ferme au moment des troubles. Et ce, car il est rentré dans la foi et rentré dans la religion par amour et par désir. Il a goûté la douceur de la foi. Il a connu sa religion comment? Avec ses preuves. Et il a mis en pratique ce que cela implique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le raffermit de par sa grâce et sa miséricorde, ici-bas et dans l'au-delà. Comme on a vu dans le premier cours, Allah subhanahu wa ta'ala, il raffermit les croyants, ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire ceux qui sont véridiques. Quant aux menteurs, il se peut qu'il ait prétendu la foi, seulement pour un intérêt personnel, pour protéger sa vie, pour protéger ses biens. Mais il ne connaît pas la religion. Il ne connaît pas la religion avec ses preuves. Il n'a pas atteint la réalité de la foi. La foi n'a pas pénétré son cœur. C'est pour cela qu'il se fait dévoiler lors des troubles. C'est pour cela qu'à la moindre fitna, tu le vois délaisser tout cela, car en réalité, il n'était pas véridique. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs véridiques et de nous préserver et de nous raffermir sur la foi jusqu'au jour de sa rencontre. Donc ce verset est une des preuves que la véracité est une condition de la ilaha illallah. Il a mentionné un deuxième verset, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons à Allah et au jour dernier » alors qu'ils n'y croient pas. Alors qu'ils n'y croient pas. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Il y a dans leur cœur une maladie. Qu'est-ce que c'est cette maladie? C'est le doute, l'hypocrisie, le mensonge. Ils ne sont pas véridiques dans leur foi. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Il y a dans leur cœur une maladie. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Allah laisse alors augmenter leur maladie. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti, pour avoir prétendu la foi, pour ne pas avoir été véridique dans la foi et pour avoir menti. Allah subhanahu wa ta'ala les châtiera d'un châtiment douloureux. Ceci est donc une preuve, mes frères, qu'il est indispensable d'être véridique lorsque tu dis La ilaha illallah. Car les hypocrites, eux, ils ont prétendu avoir la foi, croire en Allah, croire au jour dernier. Mais ils avaient dans leur cœur le doute, l'hypocrisie, l'hésitation. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc rétribués en fonction de cela et a laissé croître leur maladie. Et il les châtiera d'un châtiment douloureux. Pourquoi? Pour ce qu'ils mentaient, à cause de leurs mensonges. Et en effet, le châtiment des hypocrites est un châtiment douloureux, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'ils seront certes au plus bas fond du feu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna al-munafiqina fi d-darkil asfali min an-nar. Certes, les hypocrites seront au plus bas fond du feu. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa min as-sunnah, et parmi les preuves de la sunnah concernant la véracité, ma thabata fi as-sahihayn, ce qui est confirmé dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire al-Bukhari et Muslim, an Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, d'après Mu'ad ibn Jabal, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma min ahad yashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan, عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Il n'y a pas un serviteur qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, la ilaha illallah, et que Muhammad est son serviteur et messager, le serviteur d'Allah et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? صدقا من قلبه, avec véracité de son cœur, c'est-à-dire qu'il est véridique du fond de son cœur. Lorsqu'il prononce cette parole, quelle est sa rétribution? Illa harramahu Allahu 'ala an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit au feu. C'est-à-dire que le feu ne pourra pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'il a été véridique lorsqu'il a prononcé la double attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Il s'est ainsi opposé aux hypocrites qui, eux, prononcent les paroles avec leur langue, mais n'y croient pas dans leur cœur. Ceci est donc une preuve de la sunna concernant cette condition qui est la véracité. Ensuite, il dit concernant la cinquième condition, وَدَلِيلُ الْمَحَبَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et la preuve concernant l'amour, qui est une des conditions de la ilaha illallah, comme on l'a dit, aimer cette parole, aimer ce qu'implique cette parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction des sens rapprochés parmi les hommes. Il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, qu'ils aiment comme on aime Allah. C'est-à-dire, ils aiment ceux qu'ils associent à Allah de la même manière que l'on aime Allah. Or, les croyants sont ceux dont l'amour le plus ardent est pour qui? Et pour Allah. Ceci nous montre donc que l'amour est une adoration immense qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme ne peut être croyant si ce n'est en aimant Allah subhanahu wa ta'ala et en aimant la parole du tawhid, la ilaha illallah, et en aimant ce que cette parole implique comme culte,
qui doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit également, wa qawluhu ta'ala, également parmi les preuves de l'amour, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, man yartadda minkum an dini. Ô vous qui croyez, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, c'est-à-dire délaisse sa religion, délaisse la vérité et retourne dans la mécréance et le faux, wal'iyadu billah. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Alors Allah fera venir un peuple que lui aime, c'est-à-dire Allah les aime, et qui eux aiment Allah. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Qui luttent dans le sentier d'Allah et ne craignent le blâme de personne. Ce qui est visé par la mention de ce verset ici, c'est la parole d'Allah, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Allah fera venir un peuple que lui aime et qui eux aiment Allah. Donc, il est indispensable pour le croyant qui prononce la ilaha illallah d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer cette parole, d'aimer ce qu'implique cette parole, d'aimer la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi d'aimer les serviteurs croyants parmi les monothéistes qui aiment et se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mentionné également une preuve de la sunna. Il a dit wa min as-sunna ma thabata fi as-sahih an Anas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Donc il dit la preuve de la sunna concernant cette condition, l'amour, c'est ce qui est confirmé dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, le servant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été à son service durant 10 années. Anas, radiyallahu ta'ala anhu. Il rapporte donc que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a 3 choses. Celui en qui elles sont, il trouvera la douceur de la foi. Quelles sont ces 3 choses? An yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Que Allah et son messager soient plus aimés par lui que tout autre qu'eux. C'est-à-dire que ceux qu'il aime le plus, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc une preuve de l'amour. Wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Et que lorsqu'il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. C'est-à-dire, il l'aime pour quoi? Il l'aime pour sa foi. Il aime parce qu'il est croyant. Il aime parce qu'il voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'aime parce que c'est un fervent suiveur de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'aime pas pour la dunya. Il ne l'aime pas pour des intérêts mondains. Il ne l'aime pas pour sa couleur de peau. Il ne l'aime pas pour son origine. Il ne l'aime pas parce qu'il aime les mêmes choses que lui dans ce bas monde, qu'il a les mêmes loisirs que lui, ou qu'il vient du même quartier, ou qu'il vient de la même ville ou du même pays. Non, il l'aime pour quoi? Il l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il aime Allah, parce qu'il se soumet à Allah, parce qu'il suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la réalité de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait cela, il va goûter la douceur de la foi. Et la 3e chose qu'il a mentionnée, c'est wa an yakraha an ya'ud fi al-kufr ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yughdhafa fi an-nar. Et qu'il réprouve, qu'il déteste, qu'il répugne le fait de retourner dans la mécréance, c'est-à-dire de délaisser la foi, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en ait sauvé, de la même manière qu'il réprouverait le fait d'être jeté dans le feu. Donc ce hadith, il nous prouve également que le fait d'aimer Allah, cela fait partie des conditions indispensables de la ilaha illallah. Ensuite, il a mentionné les preuves de la 6e condition, qui est l'inqiyad. Il a dit, rahimahullah, wa dalilu l'inqiyad, qawluhu ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Et la preuve concernant la soumission, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Soumettez-vous. Al-Islam, tu sais que tu te soumettes. Comme on l'a vu dans la définition de l'islam, c'est quoi? Al-istislamu lillahi bit-tawhid, la soumission à Allah par le tawhid, par le culte exclusif. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Et le fait que tu te soumettes à lui en lui obéissant. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous soumettre. Wa aslimu lah. De nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de nous soumettre à ce qu'implique notre attestation lorsque l'on dit « Ash'hadu an la ilaha illallah ».
Il a mentionné deux autres versets qui sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Et qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son visage tout en étant bienfaisant. Donc c'est pour cela qu'il a mentionné ce verset. Qui soumet à Allah son visage. Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce que celui qui soumet à lui son visage, c'est lui le meilleur en religion. C'est celui qui a la meilleure pratique religieuse. Celui qui se soumet à Allah. Wahuwa muhsin, tout en étant bienfaisant, c'est-à-dire qu'il suit dans ses œuvres la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci sont les deux conditions de l'acceptation des œuvres. Que tu sois sincère pour Allah et que tu suives la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit wa qawluhu ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Et quiconque soumet son visage à Allah tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. Il a mentionné également un autre verset prouvant l'obligation de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et que ceci fait partie des conditions impératives de la ilaha illallah. Il a dit, wa qawluhu ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, ils n'auront pas réellement la foi, tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nul gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettront complètement à ta sentence. On voit donc qu'il est impératif de se soumettre aux sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux sentences de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite rahimahullah wa min as-sunnah qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah taba'an lima ji'tu bihi. Et parmi les preuves de la sunnah concernant l'inqiyad, la soumission, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: nul parmi vous ne sera réellement croyant tant que ses désirs ne seront pas en conformité, en adéquation à ce avec quoi je suis venu, c'est-à-dire la religion de l'islam. On a vu ce hadith lors de notre étude des hadiths nawawi. On a vu qu'Al-Hafiz al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit au sujet de ce hadith que c'est un hadith authentique. Mais qu'Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit que sa chaîne de transmission est une chaîne de transmission faible, qui n'est pas authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que malgré cela, même si sa chaîne de transmission est faible, le sens de ce hadith est véridique, comme le prouve le verset que l'on vient de mentionner. Ils ne seront pas réellement croyants jusqu'à ce qu'ils se soumettent explicitement à sa sentence. C'est-à-dire, cela revient aux propos qui sont rapportés dans ce hadith. Nul parmi vous ne sera réellement croyant tant que ses désirs ne seront pas en conformité, en adéquation à ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci nous prouve que la soumission est une des conditions de la ilaha illallah. Enfin, il a mentionné les preuves concernant la septième condition qui est l'acceptation. Wa dalilul qaboul. Et la preuve concernant l'acceptation. قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. Il dit, même si je viens à vous avec une meilleure direction, une meilleure guidée que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Ils dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, فانتقمنا منهم. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Nous nous vengeâmes alors d'eux. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui crient au mensonge, qui démentaient nos messages. Donc on voit à travers ce verset que l'acceptation, c'est une des conditions de la ilaha illallah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ces versets de la situation des communautés qui nous ont précédés. Parmi ceux qui ont démenti les messagers et qui n'ont pas accepté la vérité, mais qui se sont enorgueillis et ont refusé de suivre les messagers. Pourquoi? En se prenant pour argument l'ambiguïté maudite qui est de suivre leurs ancêtres. Sans quoi? Sans aucune preuve ni aucun argument. Par le simple fait que c'est la religion de leurs ancêtres. Alors que les messagers, alayhimu salatu wassalam, ils sont venus avec des preuves et des arguments clairs. Des preuves décisives et convaincantes. Malgré cela, ils n'ont pas accepté cette vérité de leur part. Et ils se sont enorgueillis, ont rejeté cette vérité. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés ici-bas, avant même le châtiment de l'au-delà. Donc ce verset nous prouve que l'acceptation de la vérité, l'acceptation de la religion de l'islam, l'acceptation de ce qu'implique l'attestation que la ilaha illallah, c'est une condition de cette parole. Car le fait de rejeter la vérité, de rejeter le sens de cette parole, est une cause du châtiment ici-bas, avant l'au-delà. Ensuite, il a mentionné parmi les preuves, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah, yastakbirun, wa yakuluna inna latariku alihatina li sha'irim majnoun. » Quand on leur disait, c'est-à-dire aux polythéistes, « Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah », ils s'enorgueillissaient. Et ils disaient, « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» On voit donc ici, à travers ce verset, qu'ils rejetaient ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait et n'acceptaient pas son message. Pourquoi? Car ils s'enorgueillissaient et ne voulaient pas délaisser leur divinité. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith immense qui nous démontre le grand bien qui découle de l'acceptation, c'est-à-dire l'acceptation de la religion, l'acceptation de la vérité, l'acceptation de la ilaha illallah et l'acceptation de ce qu'implique cette parole. Il a dit, rahimahullah, wa min as-sunnah, c'est-à-dire, et la preuve tirée de la sunnah concernant al-qaboul, concernant l'acceptation. Ma thabata fi sahih, ce qui est confirmé dans l'authentique, c'est-à-dire ici, al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, an Abi Musa, radiyallahu ta'ala anhu, d'après Abu Musa, c'est-à-dire Abdullah ibn Qais, al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la bonne voie et la science avec lesquelles Allah m'a envoyé sont à l'exemple d'une pluie tombée sur une terre en abondance. فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. Une surface de cette terre est bonne et absorbe. Elle absorbe l'eau, elle accepte l'eau. Plantes et herbes poussent alors en grande quantité. Et ceci nous prouve, mes frères, que l'acceptation de la religion, l'acceptation de la vérité, de la révélation, en découle de cela l'accomplissement du bien et des œuvres pieuses. Donc ceci est l'exemple du savant qui a appris, compris, mis en pratique et transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en a profité lui-même et il en a fait profiter autre que lui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Wa kanat minha ajadib, amsakat al-ma, fa nafa'a Allah biha an-nas, fa sharibu wa saqaw wa zara'u." Il dit d'autres, c'est-à-dire d'autres surfaces de cette terre, sont imperméables et retiennent l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala en fait alors profiter les gens. Comment? Qui en boivent, abreuvent leur bétail et arrosent leur culture. Et ceci est l'exemple de ceux qui ont de la science et qui n'en profitent pas eux-mêmes. Mais ils en font profiter les gens. Comment? En la transmettant. C'est pour cela que certains gens de science ont dit, dans l'explication de ce hadith, que ceci est l'exemple de ceux qui ont appris la science, qui l'ont mise en pratique et l'ont transmise, mais qui n'ont pas la science et la compréhension suffisante leur permettant de déduire des règles et des jugements de cette science. Ils ont donc besoin de la première catégorie de personnes. Et certains ont dit que ceci est l'exemple des mémorisateurs. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Wa asabat minha ta'ifatan ukhra, innama hiya qi'an, la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an." La pluie tombe aussi sur d'autres surfaces qui sont planes, qui ne retiennent pas l'eau et ne sont pas fertiles. Et ceci est l'exemple de ceux qui n'ont ni science ni œuvre. C'est la pire des catégories. Ils n'ont pas accepté la science, ils ne l'ont pas mise en pratique. Et ce qu'il faut retenir de cela, mes frères, c'est que ces conditions que l'on voit ici, et parmi elles l'acceptation, elles doivent impérativement accompagner la parole « La ilaha illallah » lorsque tu la prononces. Sinon, celui qui prononce cette parole, mais qui ne concrétise pas ces conditions, alors il ne pourra pas en profiter. Mais il ne pourra en profiter que s'il a compris son sens, l'a accepté et a mis en pratique ce qu'elle implique. Quant à celui qui ne connaît pas le sens de cette parole, ou qui le connaît, mais qui ne met pas en pratique ce que cette parole implique, alors le fait de dire « La ilaha illallah », ceci ne lui sera d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. C'est pour cela qu'à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. Cela est l'exemple de celui qui s'est instruit dans la religion d'Allah. Il a profité de ce avec quoi Allah m'a envoyé, a appris et a enseigné.
وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسَا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.
Et l'exemple de celui qui n'accorde aucune importance à cela et n'accepte pas la bonne voie avec laquelle j'ai été envoyé. Il est donc impératif, mes frères, d'accepter la bonne voie avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et à la base de cela, la parole « La ilaha illallah ». Nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc, mes frères, les sept conditions de « La ilaha illallah » ainsi que leur preuve du Coran et de la Sunna. Le cours était un peu plus long que d'habitude. Cependant, il est d'une grande importance et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la patience dans l'apprentissage de la science et dans sa mise en pratique. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous et de nous faciliter la concrétisation de ces sept conditions que l'on vient de voir. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.